Bernard Sagnu et de Kelvin Powler.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 7 août 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia. Tout d'abord, les titres. L'ultimatum de la CDAO au Niger a expiré. L'espace aérien nigérien fermé face à la menace d'intervention. La France suspend son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko en grève de la faim, hospitalisé. Son avocat franco-espagnol Juan Branco écroué à Dakar. En Tunisie, 10 corps de migrants découverts sur une plage près de Sfax. L'ex-président américain Donald Trump veut récuser la juge de son procès pour ses manœuvres après la présidentielle de 2020. Foule immense à Kinshasa pour la fin des Jeux de la francophonie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. Le Niger a fermé dimanche son espace aérien face à la menace d'intervention qui se précise peu avant la fin de l'ultimatum de la CDAO enjoignant les militaires ayant pris le pouvoir à Niamey à rétablir le président renversé Mohamed Bazoum sous peine d'usage de la force. Les membres du CNSP se disent prêts, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
À quelques heures de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, les militaires au pouvoir à Niamey ont durci le ton. L'espace aérien nigérien est fermé jusqu'à nouvel ordre. Aussi, des informations capitales sont partagées aux populations.
Des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger. En tout état de cause, les forces armées nigériennes et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité forts du soutien indéfectible de notre peuple sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. À cet effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie.
Dans la ville de Niamey, hier soir, plusieurs jeunes déjà mobilisés sur des places publiques ont redoublé d'ardeur au sein des comités dits de veille citoyenne en se tenant comme des sentinelles pour contrôler et remonter des informations sur tout mouvement suspect. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La France, qui soutient les efforts de la CDAO au Niger, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Burkina Faso, a annoncé hier soir le ministère français des Affaires étrangères. Cette annonce est prise alors que le Burkina Faso et le Mali sont solidaires des militaires ayant pris le pouvoir au Niger. Les projets en cours de l'aide française au développement en faveur du Burkina Faso représentent 482 millions d'euros, tandis que l'aide budgétaire programmée en 2022 s'élève à 13 millions, a indiqué le Quai d'Orsay. Les relations entre la France et le Burkina se sont dégradées depuis le coup d'État en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis son arrestation le mois dernier, a été hospitalisé hier à Dakar. Son avocat franco-espagnol écroué, lui aussi, refuse de boire et de s'alimenter, Yacouba Ouédraogo.
PASTEF, son parti, a déclaré qu'il a été admis aux soins d'urgence, ce qui est confirmé par son avocat, Maître Cyril Clédorly. Dans son communiqué, PASTEF dit que les autorités sénégalaises sont responsables de son état de santé. Ousmane Sonko a été arrêté et écroué. Il est accusé de fomenter une insurrection et son parti a été dissous, ce qui a déclenché des manifestations qui ont fait 2 morts. Le 1er juillet, il a déjà été condamné par contumace à 2 mois de prison. Cette condamnation avait aussi déclenché des affrontements qui ont fait 16 morts selon le gouvernement. Toutes ces condamnations et charges retenues contre lui remettent en question son éligibilité à la présidence, mais ses avocats affirment qu'il peut encore se présenter. Son avocat franco-espagnol Juan Branco, qui était recherché au Sénégal, a été inculpé et écroué à Dakar après avoir été arrêté en Mauritanie voisine. Lui aussi refuse de boire et de s'alimenter et a décidé de garder le silence et de n'autoriser personne à l'assister. Par ailleurs, samedi, le Parlement sénégalais a ouvert la voie à Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et à Karim Ouad, fils d'un ancien président, pour pouvoir se présenter à la présidentielle de février prochain.
10 corps de migrants, apparemment des ressortissants d'Afrique subsaharienne, ont été retrouvés sur une plage au nord de Sfax, en Tunisie, épicentre cette année de l'émigration clandestine vers l'Europe, a-t-on appris de sources officielles dimanche. Ces corps ont été retrouvés au cours des dernières 48 heures par des unités des gardes-côtes, a indiqué la garde nationale dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les appels se multiplient pour que soient télédiffusés en direct les procès de Donald Trump. Et l'ex-président a annoncé hier vouloir récuser la juge qui doit superviser son procès à Washington pour avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de novembre 2020 et favoriser l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le point avec Nani Talani.
M. Trump est inculpé dans des affaires qui pourraient le conduire derrière les barreaux sans l'empêcher d'être candidat à la présidentielle ni d'être élu. Des responsables souhaitent que l'opinion publique puisse suivre au jour le jour le procès. Mais la loi américaine interdit l'entrée de caméras dans les tribunaux fédéraux. Pour que le public accepte pleinement l'issue de ce procès, il est vital qu'il puisse le voir de façon la plus immédiate possible, voir comment les débats sont menés, la qualité des preuves, la crédibilité des témoins, indique dans une lettre publiée jeudi des dizaines de parlementaires démocrates. Trump est notamment accusé d'avoir voulu inverser le résultat de la dernière élection présidentielle. Le 28 août, il devrait connaître la date de son procès. Estimant qu'il ne peut pas bénéficier d'un procès équitable, Trump a déclaré qu'il va récuser la juge de son procès. Le 45e président des États-Unis, favori des primaires du Parti républicain, a aussi été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion supposée négligente de documents confidentiels de la Maison-Blanche. Il est également poursuivi par la justice de l'État de New York dans une affaire de fraude fiscale présumée. Des procès doivent se tenir en mars et mai 2024.
Le pape François a présidé hier à Lisbonne la messe finale des Journées mondiales de la jeunesse devant 1,5 million de pèlerins. Au dernier jour de sa visite consacrée au plus grand rassemblement catholique mondial, samedi, 200 000 fidèles s'étaient réunis au sanctuaire de Fatima. Eric Manirakiza.
La grande messe de clôture diffusée sur des écrans géants a été célébrée en présence de 10 000 prêtres, 700 évêques et 30 cardinaux sur un colossal autel dominant le site de cette ancienne décharge. Le jésuite argentin a prié pour ceux qui n'ont pas pu venir en raison des conflits et des guerres. Ce qui me marque, c'est de vraiment prendre conscience de l'universalité de l'Église. Tous les pays sont représentés, on entend parler toutes les langues et on voit la même joie sur les visages, a témoigné une Française de 26 ans. C'était magnifique et paisible. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. On a profité de chaque minute, a témoigné une Américaine de 54 ans, accompagnant un groupe de jeunes de San Antonio. Au milieu des tentes, des drapeaux de nombreux pays et des installations sanitaires temporaires, les jeunes ont chanté et dansé dans une ambiance joyeuse, encadrée par un important dispositif de sécurité. À la fin de l'office, le pape de 86 ans a chaleureusement remercié les jeunes, les volontaires et les organisateurs de l'événement. Le prochain rendez-vous aura lieu à Séoul en 2027, a annoncé le souverain pontife, provoquant les acclamations des jeunes coréens qui ont agité leur drapeau.
Le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, a officiellement nommé Hun Manet au poste de premier ministre. Ce dernier succède à son père, Hun Sen, homme fort du royaume pendant près de 40 ans. Reste ensuite à Hun Manet et à son gouvernement la formalité d'obtenir le 22 août un vote de confiance au Parlement dominé par le parti au pouvoir. Quelques jours après une victoire écrasante aux législatives controversées de juillet, Hun Sen, âgé de 70 ans, a annoncé démissionner de son poste de premier ministre au bénéfice de son fils de 45 ans. La Minute Éco, Alexandrine Rolognon.
Les consommateurs de Niamey, la capitale du Niger, frappés par le coup d'État, sont confrontés à la flambée des prix des denrées alimentaires de base. Depuis que le coup d'État militaire a déclenché des sanctions commerciales de la part des pays voisins d'Afrique de l'Ouest, le prix du riz a augmenté de 40% entre dimanche et mardi et certains quartiers ont commencé à signaler des pénuries de produits et d'électricité. Le Gabon a retardé un rachat d'obligations qui devait donner le coup d'envoi à un échange dette nature de 500 millions de dollars. L'appel d'offres visant à racheter une partie de trois des euro-obligations initialement prévues pour le 10 août devrait être clôturé le 15 août, a déclaré l'une des sources citant les conditions du marché. La Facilité africaine de l'eau, FAE, envisage de mobiliser 500 millions de dollars pour son fonds spécialisé dans l'assainissement urbain afin d'augmenter les investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sur le continent, selon l'agence Ecofin qui cite Bloomberg. L'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique subsaharienne demeure insuffisant. Environ 400 millions de personnes ne disposent pas encore de services d'approvisionnement en eau de base.
Merci Alexandrine. Maintenant les sports avec Élisée Onfatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
À la une, la Coupe du Monde féminine avec les huitièmes de finale.
Oui, et trois sélections africaines sont concernées. C'est inédit, même si l'Afrique du Sud est déjà éliminée, battue hier 2-0 par les Pays-Bas. Aujourd'hui, ce sera au tour du Nigeria, qui a déjà atteint ce niveau il y a 4 ans d'affronter l'Angleterre avant Maroc-France demain mardi. Un match spécial pour le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Renat Pedros, qui espère créer la surprise.
On venait réaliser un exploit sur 3 matchs. Maintenant, c'est des matchs couperets, c'est des matchs à élimination directe, tout est possible. Bon, je vais vous dire que je connais parfaitement cette équipe de France, donc c'est peut-être un avantage. Mais c'est une équipe très forte, avec des joueuses de très haut niveau, avec des joueuses avec beaucoup d'expérience. Voilà, donc ce sera un match bien sûr très 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 difficile, mais... Je pense que si on a le même état d'esprit, si on a la même envie et qu'on travaille autant qu'aujourd'hui, on peut espérer peut-être se qualifier. Voilà, en tout cas, on fera tout pour se qualifier.
Renat Pedros, sélectionneur de l'équipe féminine du Maroc au micro d'Amin Birouka. Maroc-France, c'est demain à partir de 11h temps universel.
Mais en attendant, Élisée, une foule immense s'est massée hier dans le quartier du Stade des Martyrs à Kinshasa. C'était la fin hier des 9e Jeux de la Francophonie.
Effectivement, Idrissa, Kinshasa a vibré durant 10 jours de compétition qui, malgré beaucoup d'inquiétudes, se sont bien déroulées. On rappelle que ces Jeux ont été reportés 2 fois à cause du Covid et du retard pris dans l'organisation. Et au terme de ces Jeux culturels et sportifs, c'est le Maroc qui vient en tête du classement des médailles avec au total 58, dont 23 en or devant la Roumanie et le Cameroun.
C'est le tournoi de football qui a clôturé cette édition de 2023.
Et c'est le Cameroun qui sauve la médaille d'or après sa victoire en finale 2-1 contre le Burkina Faso. Le basketball féminin est allé au Sénégal, victorieux du Cameroun 78-54. En athlétisme chez les hommes, le 100 mètres a été remporté par le Camerounais Emmanuel Essémé. A noter que le Burkinabé Hugo Fabrice Zango a pris l'or en triple saut. Au niveau des dames, c'est l'Ivoirienne Mabudu Kone qui remporte les 100 mètres et sa compatriote Jessica Gbaï s'impose sur les 200 mètres.
Et maintenant, l'afro-basket féminin à Kigali, au Rwanda.
Tout à fait. Avec le Sacre du Nigeria, vainqueur du Sénégal en finale, score 84-74. Un 4e titre consécutif pour les 10 Tigresses, leur 6e au total derrière les Sénégalaises qui en ont remporté 11. C'est le Mali qui complète le podium après avoir remporté la 3e place, succès facile 89-51 contre le Rwanda.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant modification du code électoral, une réforme qui permet de réhabiliter l'ancien maire de Dakar, Khalifa Abubakar Sall, et Karim Ouad, le fils de l'ex-président Abdoulaye Ouad. Des Sénégalais réagissent vivement à cette réforme. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
La loi qui réhabilite Khalifa Abubakar Sall, ancien maire de Dakar, et Karim Ouad, fils de l'ex-président Abdoulaye Ouad, n'est pas bien appréciée par beaucoup de Sénégalais. Pour Lamine Badji, un jeune rappeur d'une trentaine d'années, cette loi adoptée par le Parlement sénégalais risque de remettre en cause certains points essentiels de la bonne gouvernance.
Ce n'est pas normal que des gens poursuivis et condamnés pour des questions liées à la gestion des deniers publics soient lavés à grande eau et réhabilités comme si de rien n'était. Voir ce genre de personnes vouloir devenir président reviendrait à faire table rase sur les fondamentaux de la République et cela va nous amener davantage des problèmes et à accroître la corruption, car ça va encourager les gens à faire des malversations. C'est comme si tous ces mots qui touchent à la gestion des affaires publiques étaient brusquement devenus légitimes. Mais où va le pays dans ces conditions?
Une réforme dangereuse pour la justice, d'après Abdoulaye Bey, chauffeur de profession. Pour lui, le respect des décisions de justice est essentiel pour garantir une certaine équité entre les citoyens.
Non, cette intégration n'est pas juste parce que c'est deux gars qui ont un problème d'argent avec le Sénégal et qui doivent rembourser, et qui ont un problème de justice aussi, en plus. Donc, un problème de justice qui est, selon moi, très hyper sérieux. Donc, du coup, il va falloir régler cette affaire d'abord, et avant qu'ils puissent pouvoir être intégrés, que ça se voit carrément qu'il y a deux poids, deux mesures. Le problème d'Ousmane Sonko est moins sérieux que le problème de Karim Ouad et de Khalifa Sall pour moi.
Cet avis est également partagé par Mohamed Aydara, étudiant à l'Université de Dakar.
Je pense que la réhabilitation des deux présumés, bon, candidats, je dirais, je pense que c'est, selon moi, c'est inadmissible vu les poursuites judiciaires qu'ils ont eu à encourir. On devrait respecter la loi parce que si, bon, je dirais, lorsque le président de la République veut les réhabiliter sur le plan politique, ce serait une violation des lois. Donc s'il fait ça, il peut libérer M. Sonko, selon moi.
Si les militants de Karim Ouad et de Khalifa Abubakar Sall se réjouissent fortement de la réhabilitation de leur leader, beaucoup de Sénégalais estiment que cette réforme du code électoral est dangereuse pour la justice et pour la bonne gouvernance. Sedina Bagui, pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, depuis plus d'une semaine, les magistrats observent une cessation de travail exigeant la réintégration en prison d'une inculpée extraite du tribunal par des militaires. Les magistrats et les organisations de défense des droits de l'homme estiment qu'il y a eu immixtion des autorités de la transition dans une procédure judiciaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, s'exprimant sur ce sujet, désormais brûlant, affirme qu'il n'y a pas eu d'ingérence de l'exécutif. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Tout est parti d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux des jeunes en train de bastonner un quinquagénaire. Le procureur ouvre une enquête pour des faits de torture, de coups et blessures volontaires et de séquestration contre 9 personnes, dont une guérisseuse, une tradie praticienne, Larissa Nikema, communément appelée Adja de Komsilga. Alors que les inculpés s'apprêtent à quitter le tribunal pour la prison, des militaires lourdement armés font irruption. La guérisseuse sera extirpée. Le monde judiciaire crie au scandale et cesse de travailler.
Les lois sont faites par le peuple. Les magistrats ne sont que des serviteurs.
Ali Diou Tiendre Beogo, secrétaire à l'information du SAMAB, le syndicat autonome des magistrats burkinabés.
Les magistrats se disant qu'ils ne peuvent pas travailler dans ce climat de menace et d'intimidation. Les magistrats estimant que, après ce qui s'est passé, leurs décisions n'auront plus de crédibilité dans l'opinion, ont décidé d'observer une cessation de travail jusqu'à demander l'intégration de la dame Nikema Larisadi Ansetou à la maison d'arrêt du Correction de Ouagadougou.
Aussi pour les organisations des droits humains, la scène est inacceptable. Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Cette situation rocambolesque est inacceptable dans un état de droit parce que nous avons assisté à cette occasion à l'intrusion du politique dans les affaires de la justice et ce en parfaite violation du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. Ensuite, parce qu'elles rompent l'égalité entre tous les citoyens, tout se présente comme si aujourd'hui il y avait deux catégories de citoyens, ceux pour qui la justice pouvait s'exécuter de façon normale et ordinaire, et une autre catégorie de citoyens protégés par l'État. Voilà pour lesquels la justice n'a pas droit de citer, quels que soient les actes qu'ils viendraient à poser.
Yannick Nari est analyste politique.
Cette situation vient nous rappeler encore une fois de plus que l'indépendance judiciaire n'est jamais un acquis, mais reste toujours une conquête de longue haleine. Et je pense que les magistrats sont en train de lutter pour renforcer encore leur indépendance judiciaire. Et au risque de me tromper, je pense que c'est la première fois et depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, que nous assistons à une telle désapprobation et ouverte des magistrats. Il y a eu certes eu des cas d'injustice, des cas d'enlèvement, des restrictions de liberté, mais les magistrats n'avaient pas jugé opportun de lever le temps, que nous en sortions le plus tôt possible, parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions assister à une petite crise dans la grande crise qu'est la lutte contre et l'insécurité.
Le capitaine Ibrahim Traoré, s'exprimant sur le sujet, a déclaré qu'il n'y a pas eu d'immixtion, mais estime que derrière cette histoire, il y a une grande conspiration contre le pouvoir de la transition. Ce lundi, une réunion du Conseil supérieur de la magistrature et de l'intersyndicale des magistrats est prévue. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
Grève également dans le judiciaire au Tchad, celle des magistrats qui paralysent l'appareil judiciaire depuis avril. Les deux syndicats de la magistrature ont appelé à la cessation de travail dans toutes les juridictions du pays pour exiger entre autres la revalorisation des points d'indice et le respect du protocole signé entre le gouvernement et les deux syndicats. Une grève qui n'est pas sans conséquence sur les personnes qui ont des difficultés avec la loi. Quelques magistrats se désolidarisent et appellent à la reprise du travail. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
L'image désolante qu'offrent nos tribunaux qui sont désertés par le personnel judiciaire est assez épouvantable.
Koldium Baygoro du groupe Diadoc des magistrats qui se disent indignés par le bras de fer qui oppose les deux syndicats des magistrats au gouvernement de transition. Ce groupe ad hoc estime que la poursuite de cette lutte, quelle que soit sa légitimité, risque de ne pas aboutir en raison des multitudes de points de revendication. Koldium Baygoro appelle à la prise de conscience de ses collègues car, selon lui, cet arrêt de travail fait trop de victimes.
Hélas, les milliers de concitoyens, dans le désespoir et le désarroi, sous le joug de l'arbitraire et des détentions abusives. Ce qui constitue une situation qui doit, en principe, appeler chaque magistrat à s'interroger sur la légalité de cette grève, afin de trouver un point d'équilibre entre, d'une part, l'exercice du droit de grève et, d'autre part, la protection des droits et libertés des citoyens, de tout ce qui précède. Le groupe ad hoc invite chaque magistrat à faire preuve à sa conscience individuelle en reprenant le travail dès le lundi 7 août 2023.
La réaction des responsables des deux syndicats des magistrats ne se fait pas attendre.
Qu'il s'agisse d'un groupuscule sans scrupules, manipulé et dévoyé par nos autorités qui s'échinent vaille que vaille à s'aimer, la confusion est créée de dissensions au sein des magistrats. Malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau.
C'est le même son de cloche pour Abdoulaye Bono Kono, vice-président président du syndicat des magistrats du Tchad.
En quelle véritable qualité peuvent-ils appeler à la reprise de travail? Une grève qui a été décidée, enclenchée par l'Assemblée générale des deux syndicats des magistrats, sa suspension ne peut être décidée que par cette Assemblée générale. Alors ces magistrats, composés de moins d'une dizaine de personnes, déjà même identifiés et connus, normalement ne peuvent se prévaloir de rien pour réussir à une telle combine.
Dans un document officiel, le ministre de la Justice, Mohamed Amad Alabou, menace de suspendre les traitements et autres avantages des magistrats au regard de la loi s'ils ne reprennent pas les activités. Le président du syndicat autonome des magistrats du Tchad, Taouka Bruno, estime que la décision du ministre est un non-événement.
Le ministre est dans son rôle régalien de dire cela, parce qu'il a fait aussi usage des textes réglementant la fonction des magistrats. Et si le ministre estime que le salaire est la contrepartie du travail, alors là, il est en train de vouloir tout simplement occulter le droit de grève. Nous sommes sereins, nous estimons que pour ça, nous ne légiférons pas sur tous les moyens qu'on dispose.
Un autre bras de fer, c'est la note du service du Premier ministre, chef du gouvernement de transition Sali Kebzabou, demandant au ministre de la Justice de procéder à la vérification des documents administratifs des magistrats. Pour ces derniers, le Premier ministre de transition n'est pas membre du Conseil supérieur de la magistrature et que sa décision ne les engage pas. André Gordouma Djingar, Njamena pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, le classement par décret du Premier ministre de quelques 68 000 hectares dans le domaine privé de l'État suscite de vives réactions. Il s'agit de terres d'où sont originaires les membres de la communauté banène dans la région du littoral. Cette communauté a été déplacée de ses terres ancestrales il y a 60 ans, pendant la lutte contre les indépendantistes. Le gouvernement a attribué ces terres à une société d'exploitation forestière, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, Victor Yetina, chef du village d'Igbasogo 1, s'est montré réticent quant au classement des terres de son village dans le domaine privé de l'État.
Nous ne voulons pas vivre dans des enclaves, dans des enclos, nous les Banais. Cet acte de classement ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de l'État. Vous accepterez que votre village soit classé dans le domaine privé de l'État entièrement.
Le village d'Igbasogo 1 est parmi les villages qui, en 1963, ont été déclarés zones interdites par les autorités. À l'époque, l'armée menait des opérations pour déloger les militants de l'Union des populations du Cameroun, UPC, qui s'étaient réfugiés dans ce massif forestier. Emmanuel Beboum, conseiller à la chefferie d'Igbasogo 1.
La plaie est profonde. Il a parlé de 1963. J'avais 7 ans. On a souffert et aujourd'hui, cette terre-là, il faut que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, qu'ils puissent se retrouver. L'État nous a fait partir, c'était en 1963, avec promesse de nous faire rentrer après qu'on ait résolu le problème et que le calme soit revenu. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez les arbres là-bas aujourd'hui, 60 ans après, vous pouvez imaginer un peu.
60 ans plus tard, une association dénommée Mounen Retour aux Sources a été créée et plaide pour le retour sur les terres ancestrales de cette communauté dispersés dans plusieurs villes du Cameroun. Daniel Dibo, l'un des responsables de l'association Mounen, Retour aux Sources.
Nous voulons rentrer sur nos terres ancestrales. Que l'État qui nous a fait partir nous donne les moyens d'y rentrer. On est le premier village dans ce Cameroun qui a été déplacé. Donc nous voulons que l'État sursoie la décision de l'UFA.
La zone étant désormais enclavée, le député Dieudonné Mott, originaire de l'un des départements concernés, soutient la décision du Premier ministre. Dieudonné Mott, député du RDPC, le parti au pouvoir.
Nous pensons que nous avons une volonté inaliénable de repartir sur nous où nos parents ont vécu pendant des décennies. Et en cela, nous pensons sincèrement que l'UFA nous permet de nous rapprocher. Une fois qu'on s'est rapproché, à ce moment-là, nous avons une génération qui arrive derrière nous. On le dit, pour la partie-là qui a été classée comme étant patrimoine privé de l'État, le jour où on a envie de sortir un titre foncier là-dessus, à ce moment-là, vous pourrez aller à la négociation. Mais dans un premier temps, on aura déjà gagné de chez nous.
Au ministère des Forêts, et de la faune, un responsable de la direction a confié à VOA Afrique que la société forestière qui va exploiter les 60 000 hectares va recevoir comme cahier de charge du gouvernement la facilitation du retour des populations concernées dans leur village et la création d'enclaves à l'intérieur du domaine forestier et délimité autour d'anciens villages identifiés lors de l'élaboration du plan d'aménagement. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seguyan en compagnie de Georges.